10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le philosophe de la raison, une raison gourmande, le titre d'un essai étonnant il y a quelques années sur la philosophie des mets culinaires. Vous faisiez découvrir à l'époque le sens caché du champagne, du café, des sauces, des gâteaux. Bref, vous vouliez transmettre l'art de jouir pour devenir un bon hédoniste. Près de 20 ans plus tard, vous voilà devenu souverainiste. Votre revue Front Populaire se dit, je cite, « la revue des souverainistes de droite, de gauche, d'ailleurs, et de nulle part ». Et sa devise est empruntée à la Boétie. « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre ». On vous présente aujourd'hui comme le philosophe qui secoue la France. Dans votre dernier ouvrage, « L'art d'être français », vous voulez transmettre à la jeune génération les racines culturelles de notre époque avec, selon vous, de nouveaux repères qui contredisent les anciens. Le racisme revient sous forme de racialisme, le fascisme sous des allures de progressisme. Et c'est donc ce regard spécial et libre que vous allez porter dans ce grand rendez-vous donc, avec nous et avec surtout Nicolas Barré des Échos et Johan Usaï de CNews qui vous pose la première question, peut-être la première colle.
Bonjour Michel Onfray. Comme philosophe, c'est vrai que vous êtes un peu l'invité qui tombe à pic cette semaine puisqu'avait lieu le bac philo. Alors on va vous proposer un exercice sans doute assez simple pour vous. Parmi les sujets proposés, il y avait la question suivante. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Alors je vous pose cette question. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Vous n'avez pas 4 heures mais une minute s'il vous plaît pour y répondre.
Oui, vous savez, j'expliquais toujours à mes élèves qu'il fallait faire un plan en 3 parties. C'est comme ça qu'il fallait procéder.
Alors, c'est en 3 phrases.
Oui, c'est ça. On peut imaginer que discuter, c'est renoncer à la violence, parce qu'effectivement, on est dans la courtoisie, on est dans le verbe, on est dans l'échange, dans ce qu'on appelait dans l'époque médiévale la disputatio. On ne se disputait pas, mais simplement on échangeait. Par la suite, on peut imaginer, deuxième temps, une autre phrase, que les échanges peuvent être violents aussi. Et ce n'est pas forcément renoncer à la violence. Il y a des violences verbales, il y a des violences dialectiques. Ça paraît évident. Puis ensuite, on termine avec une synthèse qui n'est pas le peut-être bien cuit, peut-être bien que non des Normands, mais juste expliquer que la violence symbolique, même s'il faut l'éviter, est quand même de toute façon supérieure à la violence physique, bien sûr.
Et est-ce qu'une partie de la violence aujourd'hui, selon vous, peut s'expliquer par le fait qu'on ne discute peut-être plus suffisamment?
C'est pas seulement ça.
Rapidement.
Je pense qu'il y a violence aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'éducation. D'éducation au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence, par exemple. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui vous dit que Pasteur est un inventeur de fake news, par exemple? C'est difficile. Il faut au moins une espèce de socle commun, une espèce de socle raisonnable et rationnel, un socle d'information qui nous permet de débattre et de discuter. L'information, ça suppose qu'on vous écoute avec un esprit critique, qu'on vous lise, et qu'on lise aussi des ouvrages, des livres, et qu'on passe du temps à ça. L'information aujourd'hui, elle est donnée par les réseaux sociaux. Donc, vous dites, j'ai vu sur Internet que les vaccins, ça ne soigne pas, mais ça tue, par exemple. Difficile de discuter avec des gens qui sont sous-informés de cette manière-là.
Nicolas Barré.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, pour poursuivre, qu'il y a une spécificité française dans l'expression de la violence? Est-ce que nous sommes, nous, Français, un peuple peut-être plus éruptif que d'autres?
Vous n'avez pas tort de poser cette question, parce qu'il faut se la poser dans l'histoire. On a quand même eu la Saint-Barthélemy, on a quand même eu une révolution française qui s'est passée violemment, je veux dire, dès 1789. Vous avez cette idée de la gentille révolution de 1789, puis de la méchante de 1793. Ouais. C'est faux. Quand on prend la Bastille le 14 juillet, il y a déjà des têtes qui sont coupées, qui sont mises au bout des pics. C'est d'une extrême violence. C'est la violence de la Commune aussi. Il y a une opposition entre deux mondes, entre deux gauches, je dirais. On n'a pas beaucoup célébré la Commune en laissant croire que les Versaillais, c'est des méchants gens de droite, et puis les communards, des gentils gens de gauche. Mmh. C'est faux. La gauche sociale de la Commune, qui est plutôt la mienne, n'a rien à voir avec la gauche de gouvernement de Thiers, qui est un homme de gauche. Gambetta également.
Oui, on a vu des polémiques cette année d'ailleurs, parce qu'on a voulu célébrer aussi la Commune.
Oui, mais ça a été bizarrement célébré, vous avez vu. Pas grand-chose, pas grand mot. Il faudrait dire qu'effectivement, l'héritier de Thiers, c'est qui aujourd'hui? Pas le droit de faire de politique. Mais enfin, on voit bien que cette espèce de gauche au pouvoir, elle est versaillaise. C'est là qu'elle est. Mai 68 a été violent, ça a été extrêmement violent aussi. Mais on est resté dans le domaine du symbolique. Et on se retrouve aujourd'hui avec une violence sociale qui donne l'impression, effectivement, d'être assez française. Il y a eu des jacqueries avant la Révolution française, et on n'a pas l'impression que nous soyons un peuple de discours, de débat, de dialogue, mais un peuple violent.
Oui. Il manque les institutions pour la canaliser aussi, cette violence, les institutions, les intermédiaires, syndicats, partis.
Non, parce qu'ils fonctionnent mal, ces intermédiaires. Regardez la sociologie de la France et la sociologie de l'Assemblée nationale, elles ne se recouvrent pas. J'ai coutume de dire, nous parlions tout à l'heure de Victor Hugo, mais il y a dans Victor Hugo une expression extrêmement intéressante, une opposition extrêmement intéressante dans Les Misérables, il oppose le pays réel et le pays légal. Quand vous dites ça aujourd'hui, tout le monde dit c'est Maurras. Oui, Maurras utilise cette expression, mais elle est déjà chez Victor Hugo. Il faudrait faire coïncider. Si les gens se sentaient représentés, s'ils disaient, mais après tout, j'ai voté, mon vote n'est pas perdu. Il y a des députés, il y a des sénateurs qui défendent mes idées. Après tout, on n'est pas violent dans ces cas-là. On a perdu, on a joué, on a gagné.
Alors
bon,
justement,
voilà.
Justement, effectivement, vous évoquez deux France qui se superposent. On a vu aussi, quelque part, deux France qui se sont affrontées, notamment durant l'hiver 2018-2019, à travers ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, crise, un mot valise. Pour vous, c'était quoi ? C'était un conflit, une révolte, un soulèvement ? Qu'est-ce que ça représentait ? Et est-ce que cette colère est encore présente pour vous dans la société ?
Bien sûr. Il y a deux moments dans les Gilets jaunes, au moins deux moments. Il y a les Gilets jaunes des ronds-points et il y a les Gilets jaunes de l'avenue des Champs-Élysées. Ce n'est pas exactement la même chose. Les premiers, ce sont juste des gens qui ne font pas d'idéologie. Ce ne sont pas des gens qui seraient marxistes ou proudhoniens ou je ne sais quoi, ou trotskistes. Ce sont juste des gens qui disent « si vous augmentez le prix du plein d'essence, on ne va pas pouvoir ». On ne pourra pas. On est à quelques semaines de Noël, on n'a pas les moyens d'acheter des jouets à nos enfants. Et ce sont des gens qui se retrouvent sur les ronds-points en disant ben, « notre souffrance est commune et il n'y a pas de honte à être misérable, à être pauvre ». Et ils se mettent à manger ensemble, à boire, à discuter, à occuper les
ronds-points. À créer une sociabilité nouvelle.
À fabriquer une république. À chaque fois que vous aviez un rond-point, vous aviez une république. Et puis vous avez des hommes politiques qui, à cette époque-là, Mélenchon, Coquerel et autres, dans les trois semaines, nous disent fascistes, nationalistes. Et puis après, on a le président de la République, des intellectuels qui nous disent ils sont homophobes, ils sont antisémites. Bien sûr qu'il y a eu de la bêtise sur les ronds-points. Puis il y a eu de l'alcool. Donc quand il y a de l'alcool, il y a de la bêtise. Et puis
uniquement de la bêtise.
Oui. Je veux dire, quand vous avez des gens énervés, par exemple...
C'est pas plus que de la bêtise.
Vous savez, quand on est bête, quand on est énervé, on dit beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, quand vous avez bu un petit coup et que vous avez juste des gens qui disent « nous, on veut passer à toute allure en voiture », et puis que vous forcez un barrage ou quelque chose...
Effectivement, ce qu'on a vu, qui s'est passé.
C'est tout à fait ça.
Dès le premier jour.
Et vous dites, à ce moment-là, vous avez, je sais pas, quelqu'un qui est maghrébin, et vous allez dire une bêtise, une grossièreté, ou vous allez être homophobe, ou vous allez être raciste. Bien sûr que la bêtise est raciste à ce moment-là. Vous avez fait une photo, vous la sortez du contexte et vous dites « regardez, ils le sont tous ». Ils ont dit, je ne sais pas, sale juif Alain, ils ont dit sale bougnou
l'autre. Ça a été aussi une confrontation directe vis-à-vis du pouvoir sur des questions de taxes, sur lesquelles les syndicats n'agissent jamais en fait.
Mais
c'est cette confrontation directe qui est au fond celle que le pouvoir donnait en disant « allez-y, prenez votre destin en main ». Ça a été un peu paradoxal aussi,
Je finis de répondre à votre question précédente, c'est-à-dire que les seconds gilets jaunes ont été récupérés par la politique politicienne. C'est-à-dire, on leur a dit, venez à Paris, on va vous filer des mégaphones, des voitures, des slogans, un encadrement. Et à ce moment-là, les gilets jaunes ont été perdus parce qu'ils ont été récupérés. Ensuite, ils ont été noyautés par les Black Blocs, qui faisaient en même temps le jeu du pouvoir. C'était extrêmement intéressant de voir qu'on les laissait dépaver la rue, en sachant très bien que si vous dépavez la rue, vous allez envoyer les pavés sur la tête de la police ou sur des vitrines. Et je me suis dit, mais pourquoi, sur les chaînes d'info continue, voit-on des gens dépaver la rue sans rien faire ? Donc on a vu à ce moment-là que les Gilets jaunes se faisaient voler leur jacquerie. Et évidemment, après, on peut dire tout ce qu'on veut de pire sur les Gilets jaunes à partir de ce vol de leur jacquerie. Précédemment, il y avait quand même un désir populaire de dire, s'il vous plaît, faites un peu de politique pour nous.
Vous parlez justement des Black Blocs, c'est intéressant parce que cette prise de contrôle des cortèges, elle n'est pas nouvelle. On la voit depuis les manifestations de la loi El Khomri, un quinquennat précédent, on a vu quelque part le putsch en tête de cortège par les Black Blocs qui au fond ont dégagé les syndicats plus classiques et qui ont radicalisé tout de suite les manifestations. Est-ce que ça n'est pas aussi une expression et une illustration de cette violence qui s'est installée avec une radicalisation des manifestations d'entrée de jeu ?
Il y a quand même une gauche culturelle qui est quand même plutôt marxiste, néo-marxiste, trotskiste ou néo-trotskiste, et qui, elle, noyote. En fonction de ses intérêts, qui sont les intérêts intersectionnels, qui sont les intérêts de convergence des luttes. Et on voit bien que, faute de pouvoir mettre des gens dans la rue, quand il y a des gens dans la rue, ils récupèrent cette énergie-là. Mais évidemment, ils ont été les dindons de la farce, les pauvres gilets jaunes, dans cette aventure. Mais on a bien vu que les syndicats, les partis ont tous récupéré les gilets jaunes. À partir de ce moment-là, évidemment, c'était perdu. Donc la colère dont vous parliez tout à l'heure, évidemment, elle a été entendue, mais elle n'a pas été traitée. Elle va se manifester probablement dans les urnes. Je crains qu'un jour, elle se manifeste dans la rue.
Alors, effectivement, on laisse les urnes de côté, mais c'est vrai que quand on repart quelques instants sur cette colère dont parfois on justifie ou explique la présence. On a souvent entendu, au moment justement où le gouvernement est intervenu pour faire pleuvoir des milliards en décembre, le moment des Gilets jaunes, eh bien, si on entendait de la part des Gilets jaunes, même des gens parfois modérés, hein, en disant, mais si on n'avait pas eu un peu de violence, si on n'avait pas bousculé le gouvernement, alors on n'aurait jamais eu tout ça. Est-ce qu'au fond, ça n'était pas aussi une mutation de la lutte sociale à laquelle on a assisté ?
Non, parce que sur le fond, on a beaucoup dit qu'ils étaient incultes, les Gilets jaunes, qu'ils étaient abrutis. On en a choisi quelques-uns qui, sur les plateaux, gardaient leurs casquettes, avaient leur Gilets jaunes sur les plateaux. On se disait, mais vous n'avez trouvé que ça comme Gilets jaunes, vraiment, pour discréditer un peu le mouvement ? Parce que dès qu'ils étaient positifs, on ne les montrait pas. On dit, regardez, ils sont revendicatifs. Ils agressent Alain Finkielkraut, ils tiennent des propos antisémites, ils tiennent des propos
homophobes. Ils ont eu accès à beaucoup de plateaux, il y a des émissions en direct avec eux.
Oui, mais pourquoi est-ce que, par exemple...
On n'est pas un peu dans le complotisme, vous aussi, là ?
Non, pose la question. Pas vous, quand même, je veux dire. Ouais. Non, on peut quand même constater ce qui s'est passé. C'est pas de complotiste que de dire, mais il y a eu, par exemple, des Gilets jaunes qui faisaient des assemblées générales nationales, qui faisaient des propositions sur la restructuration de la société, sur l'idée qu'on pouvait passer au référendum d'initiative populaire, sur le fait que la représentation aurait pu être l'intégrale et ce genre de choses. Là, ces gens-là, on ne les entendait pas.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, si on veut obtenir quelque chose, il faut de la violence ? Une partie des revendications des Gilets jaunes ont été acceptées par le gouvernement précisément parce qu'ils ont été violents.
Est-ce que les syndicats sont capables de faire des mouvements sociaux ?
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ?
Mais ça a été violence contre violence. Je ne suis pas un fervent défenseur de François Hollande.
Le gouvernement a été violent ?
Je pense que François Hollande aurait géré les choses autrement. Pas faire l'apologie de François Hollande, mais le style du personnage, le caractère, sa rouerie politique, il en faut, hein, à ce poste-là. Il aurait tout de suite compris, il aurait tout de suite vu, il aurait reçu des gens, il aurait fait des choses, etc. Il n'aurait pas fait ce que Emmanuel Macron a fait, c'est-à-dire mettre de l'huile sur le feu. Très vite, quand vous dites qu'effectivement, il y a de l'antisémitisme, de l'homophobie, du racisme, dans toutes ces choses-là, dans tous les mouvements des Gilets jaunes, évidemment, vous braquez les gens.
Vous avez reconnu qu'il y en a eu aussi.
Non, mais je veux dire qu'il y a eu aussi, par exemple, un évêque qui est venu et qui a fait une messe et personne n'a dit tous les Gilets jaunes sont des catholiques. Vous voyez comment on extrapole quand on a intérêt et on n'extrapole pas quand on n'a pas intérêt.
Et il y a aussi effectivement un grand débat et ensuite beaucoup de discussions. On en reparle après la pause. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Michel Onfray, philosophe, essayiste, auteur de La Nef des Fous et plus encore récemment, L'Art d'être français. Il y a eu une rencontre première du genre, hein, puisqu'il est arrivé récemment au pouvoir, entre Joe Biden et Vladimir Poutine. On écoute, on regarde le président des États-Unis.
Les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord montrent quelles sont les lignes rouges. J'ai déjà rencontré Vladimir Poutine. Il est intelligent, il est dur, c'est un adversaire à la hauteur.
Alors, il y a cette confrontation entre les États-Unis et la Russie, qui a des réminiscences de guerre froide. En même temps, la vraie grande confrontation, c'est peut-être aussi plutôt avec la Chine actuellement. Au récent G7, le président américain a essayé de rallier les démocraties occidentales dans cette confrontation avec la Chine. Est-ce que c'est une nouvelle guerre froide qui s'installe, au fond, Michel Onfray ?
Non, ça ne s'installe pas, ça continue. Je crois que, vous savez, quand Huntington a fait paraître son choc des civilisations, il y a une grande cabale médiatique pour expliquer que Huntington créait ce qu'il dénonçait, ce qu'il annonçait. En fait, la chute du mur de Berlin n'a pas été la fin de l'histoire. La disparition de l'Union soviétique n'a pas été la disparition de l'histoire. Il a fallu que l'Union soviétique se reconstitue, elle se reconstitue avec Poutine, qui lui a fait des propositions à l'Europe, souvenez-vous. Et l'Europe l'a méprisé, souverainement méprisé à cette époque, en disant, enfin, ça va bien, on va vendre toutes vos usines, on va libéraliser tout ça, et puis on verra un petit peu plus tard. Il y a eu, avec Poutine, la possibilité pour le peuple russe de recouvrer un honneur perdu, une dignité perdue. Il faut faire de la politique aussi avec les sentiments des peuples. Des peuples humiliés restent rarement sans répondre. Souvenez-vous, vous connaissez le traité de Versailles et on sait ce que ça a donné par la suite. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas une guerre entre deux pays, mais entre trois pays, parce que c'est la Chine qui finalement avance ses pions et les avance très bien. L'Europe est assez effondrée, elle ne fait plus de politique. Elle a juste l'impression que avec une grande Europe maastrichtienne qui laisserait faire le marché, on ferait de la politique. On ne fait pas de la politique comme ça. Biden fait de la politique, Trump en faisait, Poutine en fait, et la Chine fait de la politique. Mais on a aussi Erdogan qui fait de la politique. On a quelques individus qui, effectivement, ne sont pas des parangons de vertu, hein, on est d'accord. Mais du moins, font de la politique. L'Europe ne fait pas de politique. Nous n'avons pas une tête, une parole, nous n'avons pas une vision des choses, nous n'avons pas une géopolitique, une géostratégie. Merkel en fait.
Emmanuel Macron en fait. Enfin,
alors Merkel en faisant,
des dirigeants, enfin.
Merkel en faisant, la France fait la même, et comme la France et Merkel font cette politique, le reste de l'Europe suit.
En fait, ce que vous dites, Michel Onfray, c'est que la politique d'aujourd'hui, elle se fait avec des incarnations fortes, des leaders qui revitalisent un roman national, souvent adossé à des sous-sols ou des économies riches, et à moins de démocratie. C'est ça, enfin, à part les États-Unis, bien entendu. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer ?
Elle se fait avec des projets de civilisation. C'est-à-dire Erdogan, quoi qu'on en pense, a un projet de civilisation. C'est pas le mien, mais il a un projet de civilisation. Poutine a un projet de civilisation. La Chine, évidemment.
Quel est le projet de civilisation d'Erdogan pour vous, par exemple ?
C'est très clairement un impérialisme musulman. Il le dit clairement. La destruction de l'Arménie fait partie, par exemple, de ce projet. Ce qui se passe actuellement en Arménie, c'est une guerre de civilisation. Et il n'a pas caché les attendus de sa politique. Il le dit très précisément. Il dit qu'en France, personne ne doit se sentir tranquille. En France, quand on n'est pas musulman, par exemple, il le dit clairement.
Mais quand il a rencontré le président de la République française il y a quelques jours, justement, les paroles, les propos étaient plutôt bienveillants. Chacun a échangé des respects mutuels.
Non, mais c'est en politique.
On n'y croyait pas.
Non, en politique intérieure et en politique étrangère, je ne crois qu'au fait, au geste, au geste réel, et pas du tout aux mots. C'est très facile de dire on s'entend bien, on a une longue poignée de main, et les médias se satisfont de cette longue poignée de main, on la montre en boucle et on se dit regardez, ils s'entendent bien. Vous savez très bien que la géopolitique, la géostratégie, c'est pas ça.
C'est du rapport de force.
Joe Biden parle de Vladimir Poutine comme d'un adversaire. Est-ce que vous diriez, vous, que le président Erdogan est plus que ça ? Il est un ennemi ? Et est-ce que vous avez le sentiment d'abord qu'Emmanuel Macron l'a bien compris ? On a plutôt l'impression que oui dans son discours. Et est-ce que la réponse est à la hauteur ?
Non, Emmanuel Macron, enfin, il a compris, évidemment. Il est intelligent. Mais il sait très bien que si on touche à la Turquie, on touche à la communauté musulmane. Il ne touchera pas la communauté musulmane. Vous avez aujourd'hui une espèce de façon de dire que si vous pensez la question
musulmane... À cause d'une question de politique intérieure, c'est
oui,
ce que vous dites.
Oui, bien sûr. Et vous allez vous aliéner la totalité de la communauté musulmane française, ou des sympathisants, ou tout l'islamo-gauchisme, ou toute une partie de la gauche. Donc vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pourriez. Si vous faisiez de la politique, vous imaginez le général de Gaulle. Il se moquerait de savoir si Libération va faire une contre lui, ou le monde va dire que c'était une catastrophe, il est passé du côté obscur de la force, ce genre de choses. Et à un moment donné, il faut dire, mais non, il a un projet de société qui n'est pas le nôtre. On ne peut pas continuer à dire qu'on est président de la République, que la France, c'est une façon d'être et de faire, et en même temps laisser faire des gens qui nous disent que cette civilisation, il faut la remplacer, il faut en finir, et que ça n'est pas un horizon indépassable.
Alors, à propos de son projet de civilisation, si on revient quelques instants en arrière, vous avez évoqué la Chine, on évoque ce qui s'est passé aussi au G7, où on a vu effectivement cette nouvelle initiative des Américains présentée aux autres puissances, pour faire une sorte de contre-route de la soie, un grand programme effectivement d'investissement, de façon à tenter de ralentir le bulldozer des routes de la soie et de l'empire de la Chine qui se répand. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tard, efficace, plausible ?
D'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'assez orwellien à parler de route de la soie. La soie, c'est doux, c'est agréable, c'est beau.
Ça reprend etc. Donc évidemment cette antique.
Pour les gens qui ont les références et qui se rappelleraient qu'effectivement il y a eu une route de la soie, mais c'est la route du fer. C'est vraiment quelque chose c'est le fer des militaires et des soldats. Il ne s'agit pas de refaire une route de la soie parce qu'il faudrait des belles soieries, des beaux tissus. Non, non, les Chinois sont dans une logique de conquête, dans une logique impériale. N'oubliez pas que c'est l'empire du milieu. C'est-à-dire qu'ils organisent le monde à partir d'eux. Ils n'ont pas tort. Je veux dire, chaque empire fait ça, normalement. Chaque civilisation devrait faire ça aussi. Et eux, ils sont en train de jouer un jeu de patience. Et ils avancent la totalité de leurs pièces. Et on laisse la Chine acheter des aéroports, acheter des ports, acheter des bâtiments, des immeubles. Et ben on s'est dit, mais il y a un moment donné où il suffira de faire l'addition, vous appuierez sur le total et vous verrez qu'on aura perdu.
À propos de Nicolas Barré.
Je vais revenir sur un terme justement qu'on entend souvent, qui est celui de souveraineté européenne. On l'entend beaucoup dans les milieux économiques sur le thème, effectivement, nous, à l'échelle de ce continent, on a besoin de s'unir pour développer des technologies clés, des industries clés, etc. Est-ce que ce terme de souveraineté européenne vous semble pertinent parce qu'il correspond quand même à une réalité économique, ou est-ce qu'il vous semble trop
contradictoire,
trop large,
C'est un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire deux termes qui s'opposent. Juste un petit mot, vous m'avez présenté en disant que j'ai parlé jadis d'hédonisme, raison gourmande, et que je suis devenu souverainiste. Je l'étais déjà à l'époque. Simplement, ça ne se disait pas, ça ne se voyait pas. Je suis souverainiste. C'est-à-dire, je pense que chacun doit être souverain dans son pays. Israël dans son pays, la France dans son pays, la Turquie dans son pays, etc. Ça me paraît normal. L'Irak dans son pays, l'Afghanistan dans son pays, le Mali dans son pays. Hein. C'est ça le souverainisme. C'est de dire, chaque pays dispose de la liberté de choisir
ce qu'il veut. C'est une souveraineté politique.
Il n'y en a pas d'autres.
Mais...
Alors, si vous dites souveraineté européenne, j'entends bien, ça veut dire que l'Europe sera souveraine, c'est-à-dire que les nations qui les constituent, la constituent, ne seront pas souveraines.
Donc il faudrait aller à la logique du fédéralisme, il faudrait pousser le curseur logiquement et être cohérent pour vous ?
Alors ça dépend, et vous avez raison de dire qu'il y a des Europes. Mais le vice aujourd'hui consiste à dire que si vous n'êtes pas pour l'Europe libérale, vous êtes contre l'Europe. Si vous êtes contre l'Europe, vous êtes pour les nations. Si vous êtes pour les nations, vous êtes belliciste. C'est ça depuis 30 ans.
Mais dans tous les enjeux géopolitiques que vous décrivez ce matin et qui sont nombreux, extrêmement complexes, est-ce que la France peut gagner sans l'Europe ? Vous dites que l'Europe s'est effondrée, mais est-ce qu'on peut se passer de l'Europe pour gagner sur tous ces enjeux-là précisément ?
Bien sûr que non, vous avez raison, mais personne n'est contre l'Europe. C'est ça l'espèce de vice de forme de la politique française, c'est de laisser croire qu'il n'y a qu'une Europe. C'est l'Europe de Maastricht. Si vous êtes contre cette Europe-là, c'est que vous êtes contre toutes les formes d'Europe. Bien sûr que non. Moi, je ne connais personne qui soit contre l'Europe.
Mais vous dites une victoire sur ces enjeux ne passera que par l'Europe, de toute façon.
La France seule, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, le souverainisme n'est pas la solitude. Ça aussi, c'est un deuxième lieu commun de laisser croire que si on est souverain, ça veut dire qu'on va faire tout seul et qu'on va se réduire.
Oui, on entend souvent, ça n'est pas une île, nous ne sommes pas une île bien quand sûr. On entend parler de souverainisme. Mais regardez,
prenez la Suisse, elle est souveraine. Prenez Israël, c'est un pays souverain. Ce sont des petits pays. Par le peuple et par la culture.
Vous nous décrivez tout à l'heure les forteresses, les fortins, les maisons fortes. On a le sentiment un petit peu d'assister à Game of Thrones géopolitique. Au fond, dans ce jeu, est-ce que l'Europe, qui se définit comme étant maintenant autonome et voulant réagir face aux autres puissances, est-ce que pour vous, l'Europe reste encore vraiment une actrice dans l'histoire ?
Elle le pourrait, mais ce n'est pas le cas. Moi, je suis pour l'Europe et je suis pour une Europe des nations. Je suis très gaulliste. Vous savez, sur ce terrain-là, c'est-à-dire que les nations restent souveraines, et après, vous vous associez. Si vous voulez contribuer à un vaccin européen, faites un vaccin européen. Une défense nucléaire européenne, faites une défense nucléaire européenne. J'y crois, à ça. Et les Français y croiraient aussi.
Vous évoquez les vaccins, pardon, mais il y a eu effectivement une production puissante, certes, qui a démarré lentement, avec un peu de manière chaotique, mais ensuite, la production est puissante, et de ce point de vue-là, il y a une souveraineté européenne, non ?
Non, regardez, la Russie a fait son vaccin beaucoup plus vite que tout le monde et on a tout de suite été dans une logique idéologique.
Mais elle n'a pas d'usine pour le produire.
Pardon ?
Elle n'a pas de quoi le produire.
Oui, mais justement, les coopérations le rendraient possible. C'est ça la coopération. Et le souverainisme français rend possible des coopérations avec d'autres pays en disant, nous on sait faire, je ne sais pas, l'emballage, la production, la diffusion, la distribution, la conservation, le déplacement, etc. Et on s'associe. Mais on n'a pas pour autant besoin de renoncer à notre propre souveraineté pour ça.
On se retrouve dans quelques instants avec Michel Onfray, à tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et surtout avec Michel Onfray, notre invité ce matin. On continue à explorer cette société d'après-Covid qui est en train d'émerger. Avec cette question, assiste-t-on à une renaissance française ? En tout cas, une personne, on est convaincu, est allée qui va donc prendre le pouls du pays. On écoute, on regarde le président de la République.
Je veux aussi retourner au contact, comme disaient certains de vos confrères, c'est-à-dire aller auprès de la France en direct pour vraiment comprendre comment les Françaises et les Français, tous les secteurs, ont vécu cette crise. Il y a des choses qu'on a pu voir et qu'on a accompagnées et corrigées. Il y a toujours des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne voit pas. Et donc en retournant au contact, on le comprend.
Voilà, c'était dans le Lot lorsqu'il a démarré effectivement ce nouveau Tour de France. Président maintenant qui est le chantre de l'optimisme, de la bienveillance, de la Renaissance française. C'est une composante de l'art d'être français pour vous ?
Non, là, il est au contact médiatique de la France. On n'a pas besoin d'un président de la République qui se montre à la télévision avec des petits oiseaux derrière pour nous dire « je vais prendre le pouls de la France ». Si vous n'avez pas le rapport direct à la France, et vous l'avez quand tous les matins vous avez sur votre bureau tous les rapports qui vous remontent des préfectures, plus qu'un autre, vous êtes informé, vous n'avez pas besoin d'aller dans le Lot pour être informé sur ce qui se passe en France, sur les colères, sur les souffrances, sur le désespoir, la désespérance française. L'art d'être français, c'est l'art de la parole aussi. Je parle du marivaudage. Et c'est hélas, pour le pire, l'art de parler pour ne rien dire, ou l'art de parler pour en fumer, ou l'art de parler pour éviter d'aborder vraiment les vrais sujets, les vrais problèmes, en mettant le tout sous le tapis, en disant c'est très bien, je viens demander aux Français ce qu'est leur pouls véritablement. Moi, je trouve que c'est problématique qu'un chef de l'État soit obligé de faire des tournées médiatiques françaises pour savoir ce que pense le peuple français. Théoriquement, quand vous vous présentez devant les suffrages du peuple, vous savez ce qu'est le peuple. Vous savez ce qu'il est, vous connaissez son histoire, sa longue histoire, dans la longue durée. Vous savez ce qu'est le peuple français dans l'histoire.
Mais
vous
tous les dirigeants ont éprouvé le besoin d'être en contact.
De son bureau quand même de temps en temps. Là, vous avez l'air de dire qu'il pourrait rester dans son bureau avec tous ses rapports et comprendre tout
ça. Et là, vous l'accuseriez d'être déconnecté, enfermé dans sa tour d'ivoire.
Je ne lui demanderai pas de ne faire que ça. Je lui demanderai de sortir de manière jupitérienne. C'est-à-dire, quand un chef de l'État sort, on sait qu'il sort et qu'il a des choses à dire. Quand vous parlez tout le temps, vous ne parlez jamais. Quand vous êtes sorti tout le temps, vous êtes sorti nulle part et avec personne. C'est-à-dire, vous travaillez, tous les ministres qui sont en permanence, vous regardez les informations tous les jours en information continue, il y a toujours un ministre qui est sorti. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'en vont couper des rubans, ils s'en vont dire des sottises, des bêtises, pardonnez-moi, mais enfin, on parle de la pluie et du beau temps. Non, vous travaillez à des dossiers majeurs, nous parlions tout à l'heure de géopolitique et de géostratégie, c'est ça le travail du chef de l'État, et de temps en temps, vous sortez parce que vous avez des choses à dire.
Vous préférez...
Le président jupitérien, ça vous va?
Mais bien sûr.
Tout à l'heure, on l'a critiqué, vous avez dit finalement, trop d'en haut et regardez le peuple s'est soulevé.
Non, le président jupitérien, c'est aussi celui qui sait ce qu'est le peuple, ce que pense le peuple, ce que souhaite le peuple. C'est-à-dire que quand il intervient, on sait que sa parole va être rare et qu'elle sera donc écoutée. Là, il ne va pas dans une école en disant « ça va mon petit garçon ?» ou alors le petit garçon qui dit « alors ça va la gifle, tu t'en es bien remis ?» Vous vous rendez compte?
Ah,
alors,
l'art de la transition, Yohann Uzay, bravo.
Précisément, on a beaucoup commenté évidemment la gifle qui a été donnée au président de la République. Pour vous, d'abord, est-ce que cette gifle est le reflet de la violence qui enfle dans notre pays? Ça, c'est un terme utilisé par le président de la République lui-même. Qu'est-ce qu'elle raconte de l'époque que nous vivons, cette gifle?
Elle raconte effectivement d'abord le délire. Croire que quand on met une gifle au président de la République, on a fait quelque chose de majeur. Ou quand on a enfariné Jean-Luc Mélenchon, on a fait quelque chose de majeur. Non, je condamne ces deux gestes-là, mais on peut les expliquer.
Tout à l'heure, vous parliez de bêtises pour les violences des Gilets jaunes.
Comment vous
cette gifle, c'est une bêtise. Comment vous la qualifiez?
Comment vous expliquez?
C'est plus qu'une bêtise, encore une fois.
Alors, là encore, on peut dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le travail. Moi, je vous dis que c'est pas bien, point à la ligne, on passe à autre chose.
Vous faites la généalogie des événements, vous aimez ça.
Voilà, et on fait la généalogie en disant pourquoi? Qui fait ça? Et quand vous voyez qui est ce personnage, c'est un peu un raté social, je ne voudrais pas le dire trop violemment.
Mais pardon, il se définit comme gilet jaune, comme quelqu'un qui a décroché, qui a été empêché, tout à l'heure vous défendiez.
Il se définit comme gilet jaune, mais n'importe qui peut dire qu'il est gilet jaune. Mmh. Il est aussi ça et le contraire de tout. Il a un Mein Kampf chez lui, nous dit-on. Bon bah d'accord, moi aussi je l'ai chez moi, et je l'ai lu, et j'ai travaillé ce livre. Mais en même temps, on ne dit pas qu'il avait le drapeau soviétique aussi, également. C'est-à-dire que c'est un garçon perdu, me semble-t-il. Alors évidemment, il peut avoir été gilet jaune, et d'un seul coup, ça discréditerait la totalité de la cause des gilets jaunes. C'est un peu facile. Je vous rappelle qu'un évêque est venu faire une messe sur un rond-point, et que une messe de Noël, et que personne n'a dit que tous les gilets jaunes étaient catholiques. Donc il y a un moment donné, oui, c'est un gilet jaune, mais on a le droit d'être débile et gilet jaune. Donc je dis que quand on a fait ça, on a fait quoi? On a fait le buzz 3 jours
Mais c'est symptomatique ou pas? Est-ce que c'est symptomatique?
C'est symptomatique du fait que c'est le sujet de philo de tout à l'heure. Hein. Quand on ne débat pas, on frappe. Quand on ne parle plus, quand la parole est démonétisée, effectivement, c'est tout et n'importe quoi. Il nous a dit, ce garçon, qu'il n'avait pas forcément envie de lui envoyer une gifle, mais que quand il est arrivé, qu'il a vu son regard, je ne sais plus quoi, lui dit, tiens, je lui mets une
gifle. Alors justement, c'est intéressant. Est-ce que ça n'est pas le symptôme, au fond, de ce que révèlent les réseaux sociaux et la pratique des réseaux sociaux, c'est-à-dire tout simplement maintenant l'installation d'une forme de démocratie de la pulsion? C'est-à-dire qu'on peut, on se croit autorisé de tout faire parce qu'on est tellement désinhibé parce que les réseaux sociaux nous amènent à avoir comme débat. Est-ce qu'au fond, il a pas, s'est pas retrouvé peut-être mentalement dans une forme de bulle qui lui dit bah, « je peux le faire parce que j'ai envie ».
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que si on pense ça avec un peu plus de hauteur, la question, c'est l'absence de surmoi. Il n'y a plus de surmoi. Que
quelqu'un qui se fasse
gifler parce qu'il est giflable, on peut imaginer ça, mais un homme, ça s'empêche. Disait Camus. Et de fait, on peut avoir le désir. Il y a pas mal de gens, vous savez très bien, qui sur les plateaux disaient « ah là là, c'est pas bien », etc. Puis une fois que c'était terminé, on se dit « il a quand même bien mérité hein, ». C'est vraiment.
Vous le pensez? Est-ce que vous pensez qu'il l'a mérité?
Non, on mérite jamais une gifle, jamais. Que ce soit un enfant, un président de la République, personne ne mérite une gifle. Personne ne mérite un coup et personne ne mérite de se prendre de la farine comme Jean-Luc Mélenchon. Je n'aime pas ces violences-là et je les condamne. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où il faut se demander pourquoi plus personne ne se retient. Regardez ces fêtes-là qui mettent 1500 personnes dans un champ, et le lendemain, la police est toujours là, la gendarmerie est toujours là, et la fête continue. Et on n'a rien fait contre. Vous aviez sur le Champ de Mars un tas de jeunes qui ne se sont pas empêchés. Parce qu'ils disent, ah, mais on en a marre, nous quand même. Oui, mais tout le monde en a marre.
D'aucuns de vos collègues, des philosophes, sociologues, des gens comme Michel Maffezoli, par exemple, disent, eh bien, c'est tout simplement cette envie de se retrouver, cet instinct grégaire, de fêter Dionysos, d'être dans la fête permanente. Est-ce que vous entendez ces... possible ça aussi ? Surtout après ce qu'on a vécu pendant toute cette période de pandémie, de confinement.
Oui, moi je suis lecteur de Michel Maffezoli, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis très longtemps, simplement c'est pas suffisant. Que les jeunes aient envie de faire la fête et de boire des coups, selon l'expression, on se dit mais c'est ça l'horizon civilisationnel en France ? Boire des coups et se retrouver alcoolisé en disant on va faire de telle sorte que la fête dure au-delà du couvre-feu. Évidemment que ça ne peut pas être un horizon indépassable. Simplement, je vous dis, depuis mai 68, il y a une disparition du surmoi qui est assimilée au fascisme.
Pourtant,
c'est systématiquement du fascisme,
le certains, surmoi. Durant le confinement, et ce sera la question immédiatement après, avec justement dans le prolongement avec Nicolas, c'est l'art d'être français, les bars.
au-delà de boire des coups, question à la fois simple et compliquée, mais que signifie pour vous profondément être français ?
Oui, alors j'ai renvoyé à la littérature, et on pourrait me dire, mais vous avez oublié la géographie, vous avez oublié l'histoire, c'est vrai.
Vous évoquez dans votre livre L'art d'être français, vous dites c'est une géographie, une géologie.
C'est ça, géologie d'abord, géographie ensuite, histoire, civilisation, culture, etc. Et je prends un certain nombre de figures dont je pense qu'elles ont constitué même une civilisation française. Je parlerai pour le coup d'une civilisation française à l'intérieur de la civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire une façon allemande d'être européen, une façon italienne d'être européen, une façon portugaise, etc. Et il y a dans la France une tradition qui est extraordinaire. Je dis, mais regardez Montaigne. C'est le personnage qui invente tout. Il invente l'antispécisme, le féminisme, la rationalité. Il invente la possibilité de croire en Dieu, mais en même temps de faire de telle sorte que la laïcité, on dira que Dieu ne fasse pas la loi dans la cité. Vous avez Descartes, il invente la raison moderne. Vous avez Rabelais qui invente le corps post-chrétien. Vous aviez avant un Jésus qui était engendré par une mère qui reste vierge. Tout ça était un peu compliqué. Et d'un seul coup, avec Rabelais, vous avez un corps, justement, qui boit des coups, si je vais utiliser l'expression. Voltaire, l'ironie voltairienne. Aujourd'hui, l'ironie ne marche plus. L'humour ne marche plus. Si vous faites du sarcasme, si vous faites de la méchanceté...
C'est-à-dire la critique des pouvoirs en France aujourd'hui est impossible.
Non, mais
critiquer un pouvoir, faire de l'humour, vous dites qu'aujourd'hui c'est compliqué.
C'est plus possible. Non, mais il y a un bon humour et un mauvais humour. Il y a des gens qui ne comprennent même plus la dimension de l'humour. Ce Papacito, là, par exemple, quand je me suis dit si effectivement un groupe fasciste appelle à tuer Jean-Luc Mélenchon, c'est condamnable. Je regarde la vidéo, mais je dis, mais c'est de l'humour. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est comme on veut. Mais je veux dire que quand on n'est pas capable de comprendre la dimension humoristique, et qu'on prend ça au pied de la lettre en disant c'est un fasciste qui veut ma peau, on dit mais simplement...
Parce que peut-être aujourd'hui certains ne peuvent pas lire ce second degré que vous décryptez à merveille, mais que d'autres le prennent au pied de la lettre. Donc il y a un danger pour la société maintenant.
Mais c'est l'humour des youtubeurs. C'est-à-dire c'est drôle ou c'est pas drôle, suivant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est de l'humour. Je veux dire, quand c'est l'humour de France Inter, c'est l'humour de France Inter. L'humour de Ciné Hebdo, de Charlie Hebdo, c'est l'humour de ces journaux-là. Ça, c'est l'humour de l'humour de droite.
Bon, vous citez aussi, vous citez aussi Hugo dans votre panthéon.
Oui,
mais alors,
sûr.
Il y a 1000 Hugo. Il a été tout.
Oui. Vous avez raison.
Lequel est le vôtre ?
Le dernier. C'est toujours le meilleur. Vous savez, il y a toujours une évolution chez les philosophes. Regardez Nietzsche. Il y a plusieurs Nietzsche. Ouais. Si effectivement, il change d'idée au fur et à mesure. Par exemple, son amitié avec Wagner, etc., et qu'il laisse ça de côté, c'est un Nietzsche daté. Le dernier Nietzsche, c'est le vrai Nietzsche. Pour moi, le vrai Hugo, c'est pas celui qui célèbre l'Empire, c'est pas celui qui est père de France, c'est pas celui qui aime les honneurs, etc. C'est juste l'homme des misérables. C'est l'homme qui nous dit, mais attendez, il y a le peuple, il y a quelque chose de très lyrique. Quand il parle des travailleurs de la mer ou Notre-Dame de Paris, vous avez une espèce de peuple mis en scène, et c'est le penseur de ce peuple-là inscrit dans l'histoire.
Alors tout ça, dans votre dernier livre, L'art d'être français, qui se compose au fond de lettres que vous envoyez à des jeunes philosophes, dans une volonté de transmission, vous avez toujours voulu transmettre, eh bien, est-ce que tout cela aujourd'hui peut se transmettre, ou est-ce qu'il y a des contre-valeurs, des nouveaux repères qui contredisent les anciens et qui empêcheront cette transmission? Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je suis pour la transmission. Je pense qu'une civilisation qui cesse de transmettre...
Mais ces valeurs-là, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont transmissibles? Pas contrées par d'autres?
Elles sont contrées par d'autres, parce que ce qu'on appelle la pensée woke, la contre-culture, c'est très exactement le contraire de ça. Donc oui, ça se transmet, les parents doivent le faire, les familles sont explosées, vous avez des familles dites recomposées, mais si elles sont recomposées, c'est qu'elles ont été décomposées, une décomposition, ça produit hélas ses effets, vous avez une école qui a peur d'enseigner un certain nombre d'autres choses que ce que le politiquement correct oblige, ce à quoi le politiquement correct oblige, alors effectivement, il faut apprendre le réchauffement climatique, le tri sélectif, la possibilité d'être transgenre à l'école, tout ça est formidable, mais on peut aussi enseigner autre chose et autrement. La laïcité consisterait justement à toucher ces sujets-là et en disant « pop, 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 ça, ça relève des familles et vous n'avez pas à vous substituer aux familles à l'école. À l'école, vous avez à faire ce que les parents ne savent pas faire, normalement. C'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, à réfléchir, à calculer, à analyser. Ça, l'école devrait le faire. Elle ne devrait pas apprendre le catéchisme. » d'aujourd'hui, un post-catéchisme ou un néo-catéchisme. Ça, c'est la famille, et laisser les familles faire ce genre de choses plutôt que d'idéologiser les enfants. Donc ça, bien sûr que ça s'enseigne, ça pourrait s'enseigner. On pourrait d'ailleurs faire une espèce de manuel avec des choix de textes de ces auteurs-là en disant, regardez la grandeur et la beauté de Montaigne, de Descartes, de Voltaire, de Marivaux et de Hugo.
Eh bien, sur l'état et l'avenir de la civilisation, selon vous, on se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Yoann Uzaï,
Mickaël Darmon.
Et on retrouve Michel Onfray, philosophe, essayiste, et auteur très prolifique, beaucoup de livres récemment encore, donc La Nef des Fous et puis L'Art d'être français. Dans ce livre, justement, votre postulat est que la civilisation judéo-chrétienne est en bout de course, vous écrivez, page 55, elle a fait son temps. Quelle civilisation va émerger à la place?
C'est difficile de faire une proposition, encore que ce soit une question intéressante, parce que quand on pense les civilisations, d'abord on sait qu'elles sont mortelles, toutes, et qu'il n'y a pas de raison que la nôtre y échappe. On sait que l'Égypte s'est terminée.
Oui, vous partagez avec Yuval Harari d'ailleurs cette analyse, hein, il le dit aussi.
Oui, mais surtout avec Hegel.
Oui, mais pour rester contemporain. Parce
oui,
que,
oui, mais enfin, rendons hommage à ceux qui ont pensé ces questions-là avant nous, ou même à Malraux par exemple. Je pense que ce qui advient, c'est pas l'islam. Moi, je crains pas que l'islam soit la civilisation planétaire qui remplacera la civilisation judéo-chrétienne. Je crois que ce qui s'annonce, c'est le transhumanisme. C'est une civilisation transhumaniste. C'est-à-dire que le Christophe Colomb d'aujourd'hui, déjà, c'est Elon Musk. Ou c'est Jeff Bezos. Ce sont des gens qui très précisément nous disent quel projet de civilisation ils ont. Donc c'est un projet planétaire, un projet transhumaniste. C'est un projet qui vise à conquérir l'espace. Ils savent que dans 5 milliards d'années, tout aura explosé, disparu, etc. Et qu'il faut penser en termes de civilisation qui se poursuivrait. Ce sont des gens qui sont dans la logique de l'intelligence artificielle, hélas. Ce sont des gens qui sont dans la logique aussi de la transformation des corps, dans le post-humanisme ou dans le post-humain. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on peut capter ce qui se passe dans votre cerveau, faire fonctionner votre intelligence sur un processeur qu'on peut remettre dans un autre vivant. Ça peut être par exemple un animal. Hélas, vous avez une truie qui s'appelle Gertrude, qui est actuellement dotée d'un microprocesseur sur lequel on peut envoyer des informations et faire de telle sorte que la truie aura des souvenirs de choses qu'elle n'aura pas vécues.
Donc l'objectif, c'est vaincre la mort, repousser les limites de la dégénérescence physique.
Pour ces gens-là, oui. C'est-à-dire qu'on va vers une société totalement égyptienne, je dirais, avec quelques scribes qui sauront encore lire, écrire, compter, penser, etc. Et puis une espèce de masse informe de l'humanité, d'une espèce de sous-prolétariat planétaire dont l'Europe fera partie, hein, si vous pensez en termes de 300, 500 ou 1000 ans.
Parce qu'il n'y aura plus de travail à distribuer, parce que tout sera fait par les robots, c'est ça que vous dites ?
Par l'intelligence artificielle. Vous savez que quand vous créez aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et même Elon Musk est en train de freiner là-dessus, il a une société qui s'appelle Neuralink. Regardez ce que fait Neuralink, c'est très précisément la feuille de route d'une civilisation.
Et est-ce que vous dites que la prochaine civilisation sera immortelle ? C'est ce que vous dites ? Vous le pensez ?
Non, elle fera ce qu'il faut pour, mais comme de toute façon tout obéit aux vivants, même celle-ci pourra disparaître. Alors après, déjà je fais une proposition audacieuse en vous disant après cette civilisation il y aura celle-ci. Après celle-ci, qu'y aurait-il ? On peut imaginer que, effectivement, là, on est dans quelque chose qui dépasse l'entendement, et pour le coup, ce serait la science-fiction qui rendrait possible des hypothèses. Là, je ne suis pas dans la science-fiction. Quand je vous parle de Neuralink, d'Elon Musk.
Non, on voit que ce sont déjà des organisations et même des modèles économiques autour de cela. Yoann Uzaï.
Alors, on a beaucoup parlé il y a peu de temps des valeurs, la transmission des valeurs que vous venez de nous décrire. Il y a la cancel culture qui est née aux États-Unis et qui arrive aussi en France, on le voit, avec ceux qui veulent déboulonner des statues notamment. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est une tendance de fond et est-ce qu'on peut surtout revenir en arrière ou est-ce qu'il est déjà trop tard ?
D'abord, c'est déjà trop tard. Ensuite, elle ne vient pas des États-Unis, elle vient de la France. Je vous rappelle que tous ces penseurs...
qui est très active aux États-Unis, disons.
Oui, non, vous avez raison, bien sûr.
Les campus américains ont permis le développement.
Ce sont des penseurs français, Deleuze, Derrida, Guattari, Foucault, qui, dans les années 60-70, pendant le moment structuraliste, sont dans une logique assez délirante. Eux-mêmes trouvent que c'est tellement délirante que, de leur vivant, tous renieront le structuralisme. Ils ne le diront pas très clairement, mais en gros, le structuralisme est une période dont les structuralistes eux-mêmes en France disent qu'elle est achevée. Je ne rentre pas dans le débat technique, mais je pourrais argumenter tout ça. Ça arrive aux États-Unis. La plupart du temps, ce sont des textes difficiles à lire en français parce que déjà, c'est assez obscur. De la grammatologie, l'anti-édit.
Mais ils sont très écoutés aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France.
Ces textes français sont traduits aux États-Unis. Vous imaginez des textes incompréhensibles en français, traduits en anglais et commentés sur des campus américains qui nous reviennent en France sous forme de French theory. Théorie française, hein. Eh bien, tout ça est un mouvement contre lequel nous ne pouvons rien, sauf à le dénoncer clairement. Mais si vous le dénoncez aujourd'hui clairement, vous passez pour un fasciste, vous passez pour un régressif. Vous n'êtes pas un progressiste. Et les gens ont peur aujourd'hui de dire un certain nombre de choses sur toutes les questions qui sont les questions de cancel culture. La cancel culture veut changer, faire du passé, faisons du passé table rase, hein, c'est très précisément ça. Quand Emmanuel Macron est dans cette logique-là, il est dans une logique de gauche. C'est vraiment la gauche qui nous dit du passé, faisons table rase. On ne peut pas dire du passé, faisons table rase, quand il y a dans le passé tout le génie des peuples, des gens...
C'est pas tout à fait ce que dit le président de la République. Non, lui pas, dit qu'il faut peut-être davantage revisiter l'histoire pour tirer les...
La regarder en face.
La regarder en face, par exemple, pour au moment pour tirer les bonnes leçons de notre histoire, précisément. Il ne veut pas effacer.
Il n'y a pas de culture française. Le président de la République vous dit qu'il n'y a pas de culture française.
Pendant la campagne présidentielle.
Ben oui. Et puis, il donne de l'argent à des jeunes, passe culturel. À quoi sert cet argent ? Acheter des mangas. Et on est là quand même. Hein. C'est-à-dire que et puis après ça, c'est le même président qui nous dit qu'il veut faire de la lecture une grande cause nationale. Et si vous voulez faire une grande cause nationale, vous ne donnez pas de l'argent à des enfants, à des jeunes, qui vont dépenser cet argent dans des mangas. Vous allez faire de telle sorte que les classiques, je ne dis pas qu'il faut lire les romans d'aujourd'hui, mais qu'il faut lire les classiques, il faut permettre aux jeunes de lire à nouveau Racine ou Corneille, par exemple.
Nicolas Barré.
Vous venez de la gauche, Michel Onfray. Est-ce que vous diriez que la défense de l'ouvrier, des classes populaires, a été abandonnée par la gauche au profit, justement, de la défense de l'identité ou de...
Oui, vous dites vous venez de la gauche, mais j'en viens pas, je suis toujours.
Vous êtes de gauche.
Je suis toujours. Simplement, aujourd'hui, on vous dit la gauche, c'est François Hollande, c'est Jean-Luc Mélenchon, et puis c'est, Nathalie Arthaud, par exemple. Et vous êtes quelque part là-dedans, vous dites non. Ah ben, vous n'êtes pas de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes un fasciste. L'affaire est réglée. Vous dites, mais attendez, non, ma gauche, c'est la gauche de Proudhon, c'est le socialisme français du 19e siècle qui dit, mais le peuple au centre. Ah, si vous dites le peuple au centre, vous êtes un populiste. Si vous êtes un populiste, vous êtes un démagogue. Si vous êtes un démagogue, vous êtes un nationaliste. Si vous êtes un nationaliste, vous êtes un fasciste, etc. Et on y retourne. Je dis, mais enfin, ça suffit. Moi, je ne me reconnais pas dans cette gauche de droite. C'est pas ma gauche, la gauche qui nous dit qu'il faut louer les utérus des femmes. Je peux pas être de gauche en pensant une chose pareille. C'est pas possible. L'utérus d'une femme, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à fabriquer les enfants des autres quand on est de gauche. Si on veut tout marchandiser, d'accord, faisons-le, mais on n'est plus de gauche. Moi, ma gauche, effectivement, elle a le souci du peuple. J'étais hier à Caen avec les marins-pêcheurs, à manifester avec eux, à leur côté, parce que on ne parle pas des marins-pêcheurs, on ne parle pas des paysans. Ils travaillent 15 heures par jour, les marins-pêcheurs. Ils travaillent tout le temps. Ils travaillent en permanence pour des salaires de misère. En même temps, on leur met des champs d'éoliennes dans la mer. Ils ne peuvent plus travailler, on ne peut plus pêcher, etc. Qui se soucie de ce peuple-là ? Qui se soucie du peuple des Gilets jaunes ? Qui se soucie des travailleurs ? Il y en a encore des considérables. Ces gamins que je vois passer qui à 11 heures du soir, livrent des pizzas sur des vélos ou sur des scooters. Mais il est là, le prolétariat. Il est là, le peuple. Où est-ce qu'elle est, la gauche
Elle ne s'en occupe pas.
Elle s'occupe des discriminations, elle s'occupe, vous dites, de refaire l'histoire, de lutter contre le colonialisme. Mais a oublié l'ouvrier, a oublié le prolétaire, absolument. C'est ce que vous dites ?
Oui, mais Terra Nova, souvenez-vous, Terra Nova a dit laissez-les partir, ces gens-là. De toute façon, ils sont déjà chez Marine Le Pen. Bah, si Marine Le Pen a un succès, il ne faudra pas se demander pourquoi. Le jour où vous dites laissez le peuple à Marine Le Pen, on n'en veut plus, on va se créer un néo-peuple, eh bien, le fameux néo-peuple, il est minoritaire et on nous dit qu'il est majoritaire.
Dernière question, Michel Onfray, je reviens à votre livre La raison gourmande. Vous avez évoqué à ce moment-là, quand vous parlez du champagne, son rapport avec le bal masqué, parce que c'est la boisson de la disruption, où on est désinhibé et des bulles qui remontent contre le courant. Le jour de son investiture, en musique, par la garde républicaine, Emmanuel Macron a choisi l'aria du champagne, d'un extrait donc de Don Giovanni. Est-ce que pour vous, c'est le président masqué ?
Oui, ça me paraît évident, d'autant que... on fait l'éloge du libertinage quand on choisit Don Giovanni et cet art-là très précisément. Quand on est justement président de la République, on a le sens des symboles. Je vous rappelle qu'il choisit ça, puis juste après, il choisit aussi une espèce de chanson américaine, là, et qu'il salue à un moment donné à la mode américaine. Je vous rappelle également qu'il souhaitait faire cette soirée d'investiture au Champ de Mars.
Et que refusé par Hidalgo et qu'il a retrouvé effectivement la pyramide.
Donc quelqu'un qui nous dit « je viens d'être élu, je vais fêter ça au Champ de Mars », dans le symbolique, c'est quand même un peu fort, hein.
Et donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il est dans une logique des symboles, Selon nos informations, par exemple, il y a une volonté, une réflexion à l'Élysée de panthéoniser Joséphine Baker, espionne afro-américaine qui choisit la France. Bonne idée.
Bon, il y a un moment donné où, de toute façon, quand vous êtes célébré, c'est plus pour ce que vous avez fait véritablement, mais pour ce que vous êtes. Si vous avez la bonne couleur de peau, la bonne religion, si vous êtes un politiquement correct, idéologiquement, etc., etc. Il faut donner des messages à la nation.
Quand le général, c'est aussi un art d'être français, Joséphine
Baker.
Oui, non,
mais très bien. Mais moi, je vais arrêter de parler des panthéonisations, parce qu'il a été question de Rimbaud et de Verlaine en son temps. Ça devient à chaque fois une occasion de bataille mémorielle, parce que le problème là-dedans, c'est plus la France, c'est l'idéologie. Célébrons des grands Français, Joséphine Baker en fait partie, mais c'est une grande Française, pas parce qu'elle avait cette couleur-là.
Merci beaucoup, c'était le grand rendez-vous de Michel Onfray. À dimanche. Europe 1.